Chapitre 11. Tonnerre du jugement. La nuit a été brûlante et lourde sur Cloisterham et ses environs. Le matin n'a rien changé à cette maussade atmosphère, il l'a plutôt rendue plus pesante encore en allumant les usines et les cheminées. La fumée court dans les rues et sur la rivière, et les jeux de cette masse sombre indiquent que l'air est singulièrement raréfié. Des vapeurs épaisses et méphitiques enveloppent toute la contrée, les bateaux à voile noire glissent lentement, les voiles battent les mâts, l'aviron pourrait suppléer au vent qui manque, mais les rameurs sont mous et la pensée du travail leur devient pénible. À mesure que la matinée avance, des nuages épais s'élèvent. Les personnes qui consultent le baromètre ce jour-là observent que l'aiguille semble atteinte de la danse de Saint-Guy. Elle court çà et là, elle semble avoir perdu sa sensibilité métallique et ne sait quel temps prédire. À la même heure, sur la côte, de vieux compagnons ridés et couverts de goudron sont bien en peine. Ceux-là se tiennent l'œil au télescope. Ils observent le baromètre variable, mais tombant toujours, et clignotent vers le ciel des regards obliques. Puis les voilà passant la chique d'un côté à l'autre de la bouche, et remarquant sentencieusement qu'ils n'ont pas vécu pour rien pendant 42 ans sur cette côte, et qu'il y aura un coup de vent avant qu'il soit pluvieux de bien des heures, et qu'il ventera ferme, ferme, ferme. Sa révérence le doyen s'aperçoit aussi de quelque chose de particulier dans l'atmosphère, et cela grâce au secours de son gros orteil droit, au moment où il boutonne ses guêtres pour aller à la cathédrale, où sera célébré un service d'une importance terrestre plus qu'ordinaire. Le sermon du matin ne doit-il pas être prêché par le frère en Dieu du doyen, l'honorable, le révérendissime doyen de Baxter, de passage à Cloisterham, à son retour du continent? Top traverse les trois espaces qui séparent sa maison de la cathédrale afin de s'assurer que les portes en seront largement ouvertes pour cet important service et que rien ne risquera de choquer le goût délicat de sa révérence le doyen ou le goût encore plus délicat de l'honorable révérendissime doyen son hôte. Top remarque l'apparence du ciel, pronostique silencieusement de la pluie, sinon du vent, échangeant brusquement d'avis, n'ouvre la cathédrale que tout juste pour la ventiler, de peur que la pluie ne vienne à entrer par une fenêtre avant la fin de l'office, ce qui causerait du trouble, et toute émotion bruyante dans le saint lieu éveille toujours un sentiment pénible chez sa révérence le doyen. M. Crisparkle n'est point satisfait. Il croit avoir fait, dans de l'eau mêlée d'huile, son plongeon matinal aux environs de l'écluse. Il n'en a pas été rafraîchi. Lui aussi, il prend note des influences atmosphériques en sortant du coin du chanoine mineur pour traverser la distance infinitésimale qui le sépare de la cathédrale. Il respire moins librement et moins fortement qu'à l'ordinaire et se demande en entrant dans l'église s'il n'aurait pas bien fait d'apporter son parapluie pour traverser de nouveau, après la cérémonie, ce court espace où il pourra bien reprendre un bain, cette fois transformé en douche. Et M. Jasper, il sortait de chez lui après 3 jours de maladie et de repos supposé qui avaient suivi sa visite nocturne à la crypte. Il ne faisait, du reste, cet effort que pour satisfaire M. Crisparkle. Un message suppléant du chanoine l'avait assuré que sans lui, le service ne saurait marcher, qui étonnerait certainement le révérendissime doyen de Baxter, infligerait une pénible mortification à son ami le doyen. M. Jasper se rendait donc à la cathédrale à cette heure tardive qui ne lui donna que le temps de s'habiller à la hâte pour le commencement de l'office. Il regardait aussi le ciel menaçant, se sentait oppressé et attribuait à la température la faiblesse insurmontable qui semblait peser sur tous ses membres. Il n'expliquait pas autrement certaines douleurs sourdes au sommet de la tête, une douleur semblable à la pression d'un poids de 100 livres. Mais cette température menaçante ne cause point au maître de chapelle les mêmes impressions qu'au commun des hommes. Tandis que tout le monde s'en va disant « Par ce temps chaud et lourd, il y aura un orage et cela éclaircira le ciel », lui aussi il pense à cet orage, mais il le craint, il espère qu'il n'aura pas lieu, comme si le roulement de la foudre devait lui apporter les sévères commandements du Sinaï. la réunion des fidèles dans la cathédrale de Cloisterham est plus nombreuse que de coutume ce matin-là. On a appris l'arrivée du doyen de Baxter, et son éloquence bien connue n'est guère moins puissante pour attirer les auditeurs que son titre d'honorable, joint à celui de révérendissime et la connaissance de sa qualité dans le monde, car le révérendissime est fils d'un baron ou d'un comte. Aussi, en dépit de l'orage prochain, les sièges se garnissent de bonheur comme un jour de grande fête. Le chœur se réunit au complet, car toutes les églises sont rivales et jamais une cathédrale du royaume ne voudrait manquer l'occasion de faire résonner des torrents mélodieux aux oreilles du représentant d'une autre cathédrale. Les masses chorales de Cloisterham sont là, décidées à en chanter et à humilier, si elles le peuvent, le doyen de Baxter. Il fait déjà sombre dans la cathédrale quand les dernières notes de l'orgue jouant l'introduction roulent et s'éloignent sous les arceaux de la voûte. L'organiste s'efforce de faire croire que le conflit des éléments est commencé et que déjà l'écho d'un tonnerre lointain murmure entre les colonnes. Le temps s'assombrit de plus en plus, comme si l'aile noire d'un corbeau gigantesque s'étendait sur l'église et sur les fidèles. Voici les premières paroles du service implorant l'humilité nécessaire pour oser affronter la présence de celui qui est plus terrible que les plus terribles mouvements de la nature, pour demander que celui qui est assis au-dessus des nuages et des tempêtes n'entre pas en jugement contre ceux qui n'ont ni force ni volonté pour le grand combat. Et le temps s'assombrit encore et les lumières s'allument. Puis commence la sublime confession à laquelle le cœur de tous les fidèles va répondre avec plus ou moins de crainte et d'humilité. On récite l'oraison dominicale et le Venite exultemus domino résonne dans le cœur. Ceux-là seulement le comprennent bien qui sont plongés dans la douleur, dans le crime ou qui se trouvent égarés au milieu des grands périls de la terre ou de l'océan. L'obscurité semble moins profonde au moment où M. Crisparkle lit, de sa voix claire et douce, la première et la seconde leçon du jour. Dans l'intervalle, il semble que le Te Deum Laudamus va tout à l'heure emporter les âmes tremblantes jusqu'au pied de l'Éternel. L'obscurité revient, augmente et semble prédire quelque chose d'effroyable qui fait pâlir tous les fronts et arrache des cœurs toutes pensées en face du Tout-Puissant. Un phénomène se produit au moment du Benedictus, un phénomène étrange entre tous qui fait tressaillir tous les fidèles, et c'est tout à la fois une terreur physique et surnaturelle. La grande aile noire s'agite, le vent et la pluie commencent, accompagnés du roulement du tonnerre, dont il semble que les accords de l'orgue ne sont plus que l'imitation pâle et dérisoire. On peut entendre au-dessus de ces accords et de la voix des chanteurs le bruit de l'eau fouettant les grandes fenêtres, le vent qui gémit, hurle et fait rage contre le vieil édifice. Bien des visages pâlissent, qui n'ont pas pâli depuis longtemps, comme si le dieu des tempêtes remplaçait au milieu d'eux le dieu d'amour et de paix qu'ils invoquent d'ordinaire et les forçait à reconnaître un nouvel attribut de sa grandeur. Plus d'une fois, M. Crisparkle, dont l'esprit calme et joyeux est pourtant frappé, lève les yeux d'un air de surprise et de trouble, non sans un certain mélange de plaisir artistique. Plus d'une fois, le doyen, chez lequel le sentiment artistique est bien moins développé que le sentiment des convenances et le désir que toutes choses se passent en bon ordre, et qui n'a aucune raison de penser plus sérieusement ce jour-là qu'un autre, au vent et au tonnerre, plus d'une fois, le doyen regrette que la visite de son révérend confrère de Baxter soit accompagnée de circonstances si peu agréables. Il pense qu'au moment de son sermon, si le mauvais temps continue, son collègue ne sera pas écouté avec l'attention qu'il mérite. Peut-être le doyen de Baxter est-il sous la même impression et se dit-il que si c'est là le temps de Cloisterham, il aurait bien fait de rentrer tout droit chez lui. Top, pendant ce temps, éprouve une attaque de tribulation bien différente de celle dont il a parlé à M. Crisparkle. Il redoute sérieusement quelque accident pour sa cathédrale, accident qui serait suivi d'une dépense inconnue de livres sterling. Aussi n'est-il guère attentif au service, il ne cesse de regarder la voûte et les murs, ce qui excite dans le cœur des assistants une fâcheuse crainte de voir la cathédrale s'écrouler sur leur tête. Et John Jasper ? Il est sorti d'une chambre de malade et peut-être d'un lit de douleur aux sollicitations de M. Crisparkle et parce qu'il sait que l'occasion est réellement importante. Il s'est fortifié tant qu'il a pu pour faire son devoir dans la cathédrale aux yeux et aux oreilles de ceux qui le connaissent depuis si longtemps et de sa révérence le doyen de Baxter. Ses genoux ont beau trembler, ses yeux être vagues et vitreux, sa tête endolorie, son corps incapable de rien, si ce n'est de mouvements purement mécaniques, qu'importe, il a des devoirs à remplir, il les remplira jusqu'au bout. Peut-être s'est-il produit quelque défaillance dans cette riche voix de ténor, si étendue dans les cordes graves que Jasper est aussi un baryton. Cette voix, qui a si souvent rempli la cathédrale, ravi Cloisterham et enchanté le chanoine Crisparkle, amoureux de musique, n'est peut-être point ce jour-là digne de sa vieille réputation, mais personne ne s'en est aperçu. Il a tenu son cœur, pour ainsi dire, dans sa main, et en dépit de l'orage, jamais peut-être les parties musicales du service n'ont été mieux rendues. Si les cheveux du maître de chapelle sont plus gris qu'ils ne devraient l'être et son visage plus hagard que jamais, il n'est pas probable qu'on le remarque dans la demi-obscurité de la cathédrale où il est assis, en avant des chanteurs en robe blanche, ne connaissant, eux, ni la souillure, ni le péché, ni la douleur. Le Jubilate Deo, suivant le Benedictus, vient de s'éteindre quand tout à coup, et comme si l'obscurité précédente n'eût été qu'un avertissement, le voile noir s'épaissit sur la cathédrale et sur les fidèles. Il n'y a plus en ce moment ni pluie ni vent. L'obscurité semble presque palpable. Les cierges ne sont plus que des étincelles au milieu de cette atmosphère épaisse. La congrégation tout entière est immobile, les cœurs battent lourdement, les respirations deviennent rares, la terreur de l'inconnu pèse sur tous. Si les cierges pouvaient donner plus de clarté, il la montrerait, cette terreur, écrite sur les visages. Puis, à ce moment solennel, M. Crisparkle, officiant en l'honneur du visiteur révérendissime et après un long moment de silence, pendant lequel les échos des voûtes répètent les derniers sons de l'orgue, M. Crisparkle commence le symbole des apôtres et les voix tremblantes des fidèles l'accompagnent avec ferveur. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Au-dessus de sa voix et de toutes les voix semblent résonner les battements de l'aile noire. Au-dessus de ce murmure éclate le roulement du tonnerre. Les colonnes semblent chanceler et les fidèles se cramponnent à leur siège car ils croient sentir trembler les dalles. Mais le chanoine continue de lire et les voix terrifiées essaient de le suivre jusqu'à ces mots pleins de crainte et d'espérance. D'où il viendra juger les vivants et les morts. En ce moment, il semble que la formule sublime et terrible fait place à la réalité, plus sublime et plus terrible encore. La fin du monde n'est-elle pas arrivée? Quand a-t-on vu chose pareille? Et combien de temps le bâtiment le plus solide pourrait-il résister aux efforts des éléments? Un autre coup de tonnerre éclate, plus rapproché, plus violent, plus épouvantable, accompagné d'éclairs si intenses que tous les yeux se ferment. L'éclair illumine la cathédrale plus vivement qu'aucun soleil de midi. Le vent recommence à souffler plus impétueux, secouant le massif édifice comme un château de cartes. Voûtes, arceaux, colonnes, tout va s'effondrer sur la centaine de fronts humains écrasés sous leurs ruines. Encore un instant, et il semble que la démolition va commencer. Un horrible craquement se fait entendre à la suite d'un coup de vent plus terrible. Quel bruit ! Mais on le reconnaît pour celui du verre brisé, tombant en mille éclats au milieu de mille cris d'effroi. C'est le grand vitrail du cœur, tout à l'heure si parfaitement illuminé par les éclairs, que chaque figure de saint semblait revivre. C'est le grand vitrail qui cède sous la pression du vent et qui tombe. Voilà un affreux tumulte. On se lève, on se précipite, l'abside va crouler. Mais on entend la voix de M. Crisparkle s'élevant pour calmer les fidèles. Puis il arrive alors un incident inattendu et qui demeurera longtemps dans les souvenirs des habitants de Cloisterham, présents à la cérémonie, aussi longtemps que la terreur causée par l'orage et les dégâts faits à la vieille église. John Jasper, inaperçu comme tous les autres au moment de la catastrophe et dont personne ne peut raconter les faits et gestes à ce moment particulier, John Jasper a disparu de son siège quand la première terreur est passée et qu'on essaie de reprendre le service. Et ce n'est que par les rapports des choristes effrayés et par conséquent peu intelligibles qu'on apprend qu'ils ont vu une forme blanche s'enfuir au moment où le vent et le tonnerre réunissaient leurs efforts sur la cathédrale, au moment de la chute du vitrail, alors que le tonnerre du jugement résonnait dans les paroles terribles prononcées par le doux M. Crisparkle. On sait que Jasper a été très malade. Peut-être en proie à une crise subite, s'est-il enfui pour chercher un secours médical sans troubler la congrégation. C'est l'explication naturelle qui se présente à l'esprit de Top, dont la dignité est plus ou moins froissée par cette infraction aux règles de la cathédrale. Elle vient aussi à l'esprit de M. Crisparkle, qui regrette la persistance avec laquelle il a insisté pour forcer un malade à sortir de sa chambre. Aussi, au révérend doyen qui regrette ce contretemps, doucement, suivant son habitude, et d'autant plus doucement qu'il est absorbé par la mauvaise conduite de son gros orteil, aussi au très révérendissime doyen de Baxter, qui prêche son sermon dans la cathédrale déjà moins sombre. Le temps semble rasséréné. Le doyen étranger serait bien mieux écouté si le grand vitrail n'était pas abîmé de façon à exiger une réparation coûteuse. De son côté, il entend un service musical bien moins parfait que si le maître de la chapelle n'était pas absent. Absent, c'est bien le mot qui dit tant de choses en si peu de lettres. Absent pour savoir comment il s'en est allé, comment il s'est senti forcé à fuir, par quelques combinaisons de remords et de terreur, il en est arrivé à cette folie. Comment le tonnerre du jugement l'a poursuivi tout à coup, nul ne le sait. Pour le deviner, il faudrait des imaginations plus vives que celles du bon peuple tranquille de la vieille cité, qui ne connaît rien de John Jasper, que son visage et que sa voix. Oui, John Jasper est absent pour la dernière fois, et pour toujours, du siège qu'il a occupé et des fonctions qu'il a remplies. À moins que les esprits sans repos ne reviennent en effet sur la terre, comme le croyaient les gens du vieux temps, pour hanter les lieux où ils ont travaillé, aimé, joui, péché et souffert.